Vous écoutez
RMC. RMC, Estelle Midi.
Midi 7 sur RMC, on démarre Estelle Midi avec l'actualité du jour et c'est ce sondage IFOP qui révèle que 74% des Français, les trois quarts donc, se disent aujourd'hui mécontents de l'action d'Emmanuel Macron. Le bilan du président de la République est jugé négatif dans tous les secteurs, Rémi, ouais. Notamment celui de l'économie.
Et dans le détail, 88% des personnes interrogées portent un regard négatif sur l'action du chef de l'État dans la lutte contre les déficits. Ils sont 84% à désapprouver son action sur le pouvoir d'achat, 77% sur la réforme des retraites. Au-delà, tu l'as dit Estelle, c'est l'ensemble du bilan d'Emmanuel Macron qui est critiqué. 79% des Français sont mécontents de son action en matière de maîtrise de l'immigration, 57% en ce qui concerne la lutte contre le terrorisme, 69% désapprouvent sa politique de défense de la laïcité, 72% jugent que l'image de la France à l'étranger est aujourd'hui dégradée. Et plus le temps passe, moins les engagements pris par le candidat Macron de 2017 semblent devoir être tenus selon les personnes interrogées. Si en avril 2018, dans une précédente étude IFOP, 57% des Français estimaient que le chef de l'État respectait ses promesses de campagne, ils ne sont plus que 26% à le penser aujourd'hui. Et si la candidate macroniste aux européennes de juin est aujourd'hui au plus bas dans les sondages, on en a parlé hier, ouais. 16% des intentions de vote, ce n'est certainement pas un hasard. Le RN est en tête dans les sondages et il rassemble aujourd'hui dans les intentions de vote davantage de cadres et autant de retraités que le camp d'Emmanuel Macron.
Qui l'eût cru il y a seulement quelques années. 74% des Français mécontents de l'action d'Emmanuel Macron. D'accord, pas d'accord, Thierry Moreau.
D'abord, les Français sont toujours des râleurs. Donc, ils ne sont jamais contents des personnes qui sont en place. C'est quelque chose d'un peu régulier et fréquent. Bon, ça veut dire qu'il y a quand même 26% des gens qui sont, si on regarde le verre, un quart plein.
T'es fort en maths,
on voit qu'il y a 26% des gens qui sont favorables à son action. Je rappelle que François Hollande était tombé à 13%, Sarkozy est descendu jusqu'à 28% et que Emmanuel Macron, le même, était tombé jusqu'à 22% au cours de son premier mandat. Donc voilà. Alors la question qu'il faut se poser, c'est pas tellement ces chiffres-là et ces évolutions-là. Il y a des moments où effectivement l'opinion est un peu remontée, d'autres moments où ça va mieux.
Presque un Français sur deux qui est très mécontent.
Oui. Sauf que, est-ce qu'on élit un président pour qu'il soit populaire ou est-ce qu'on élit un président pour qu'il fasse les réformes qui sont nécessaires au pays, quitte à prendre des décisions impopulaires? C'est ça la vraie question. Et moi, je pense que depuis qu'on a adopté le quinquennat et en plus qu'on l'a lié aux élections législatives, il y a une sorte l'exécutif est prisonnier de sa prochaine réélection. Alors là, il n'a pas de réélection, non. Mais son premier mandat était évidemment contingenté par le fait d'éventuellement être élu. Et puis là, il a plutôt envie que quelqu'un lui succède qui soit dans la même veine. Donc tant qu'on aura ce système-là et on sera pas revenu avec un septennat non renouvelable, c'est-à-dire où le président qui est élu fait vraiment, il a les mains libres pour pouvoir faire.
Il a le temps de faire ce qu'il veut.
Le temps. Et puis surtout faire des choses éventuellement impopulaires. Et puis tu parlais des promesses non tenues. Je rappelle quand même que la réforme des retraites, c'était une promesse de campagne et qu'il l'a tenue contre vents et marées. Après, on peut être d'accord, pas d'accord, c'est un autre débat. Mais donc,
celle de 2019 ne ressemblait pas du tout à celle de 2023.
Alors la promesse n'était pas tout à fait conforme au résultat, je suis d'accord avec vous. Moi, j'aurais préféré la promesse de 2017 à ce qui est arrivé finalement dans les tuyaux. Mais tant qu'on aura cet objectif de la réélection, tous les hommes politiques qui sont en place nous promettent monts et merveilles, ensuite font pas ce qu'ils ont promis et pensent surtout.
Parce que ça existe en fait de ne pas prévoir une réélection? C'est dans quel monde en fait?
Eh bien, dans un système où on aura un septennat non renouvelable.
Et là, c'est pas la même chose?
Bah non.
Ah ben non.
Un septennat non renouvelable.
Ben oui, bien sûr.
Oui, mais c'est la même chose. Parce
ben
qu'en
non,
fait,
pas du tout. Bah,
si vous me laissez vous le dire, je vais vous l'expliquer. C'est exactement comme le cas de figure du moment qui dit que Macron n'ayant pas de suite. Je me souviens quand on disait il va se lâcher parce que il est plus libre maintenant car il n'y a pas de il va pas pouvoir se représenter derrière.
Il est abîmé par son premier quinquennat.
Sauf que
et puis 5 ans,
en fait
c'est trop court.
Mais peu importe si c'est pas pour lui, ce sera pour son camp. Donc en fait, on croit toujours que si c'est pas renouvelable, t'es plus libre, tu fais réellement les réformes, même quand t'es impopulaire, si cela. Mais non, parce qu'après, tu veux pas abîmer ton camp. Il y a des gens qui te disent bah oui, mais on va pas ruiner l'héritage. Il y a des gens qui veulent prendre la suite. On est toujours prisonnier de ce qu'on fait, de son camp. Bah, pourquoi tu fais non avec la tête?
Bah
non,
parce que je pense qu'il y a des hommes politiques, notamment par le passé, qui ont dit, moi si je suis... Alors ils n'ont pas été élus, ils n'ont pas été confrontés.
Bah, si t'as un exemple, je veux bien, parce que moi je vois pas...
Michel Rocard, par exemple, il a dit que la réélection n'était pas son sujet.
Mais non, mais Michel Rocard,
il
a été nommé contre la volonté de François Mitterrand, il a pris un coup de chausson au bout de 3 ans.
Il y a des hommes
politiques... Et ils ont pris une débâcle législative.
Il y a des hommes politiques qui pensent d'abord à faire les réformes nécessaires avant de songer à l'éventuelle réélection, alors, la leur ou celle de leur camp. Alors, je suis désolé, ça existe.
Et Emmanuel Dancourt, est-ce que vous trouvez que les Français sont trop durs avec Emmanuel Macron? 3/4 des Français mécontents de son action.
Ben non, moi je les trouve pas trop durs. Je trouve que le sondage est assez juste. Moi je prends un domaine, quel domaine que je maîtrise le mieux, qui était celui de la grande cause du quinquennat, des quinquennats, c'est-à-dire les violences sexistes et sexuelles, les violences faites aux femmes, et pas que. Si on prend juste ce dossier-là, on voit bien que c'est un dossier où il y a eu des choses de fait. Ce serait quand même malhonnête de dire qu'il n'y a rien eu de fait, mais où tout reste à faire. Si on prend les féminicides, on est sur une stagnation à 130 féminicides par an depuis 2017. On n'a pas réussi à faire baisser le chiffre. Si on prend les moyens, les budgets, c'est toujours le plus petit budget de l'État, hein, les violences sexistes et sexuelles. Là, on va encore nous en enlever 10 millions suite à la baisse.
Oui, mais on ne peut pas juger l'action d'un président sur un seul domaine.
Moi,
en fait.
Bah, moi, je prends là-dessus.
Mais ce domaine n'apparaissait pas, Emma, dans les préoccupations des Français. Je ne dis pas que ce n'est pas important.
Enfin, non, mais ce que tu soulèves est un problème.
Oui, bien sûr.
Tu vois que c'est un domaine qui nécessiterait, ça a été calculé par la Fondation des femmes, ça nécessiterait 2,6 milliards d'euros. Et aujourd'hui, c'est le plus petit budget qui soit. Donc, on voit que ça n'avance pas. On constitutionnalise l'IVG, mais on ne donne pas aux femmes le moyen d'y avoir accès parce qu'il y a plein d'endroits où on n'y a pas accès.
Mais ça change pas accès. Tu ne peux pas dire un président, c'est par exemple juste l'immigration.
Je prends un exemple.
Juste les droits.
Non, tout à fait. Je suis d'accord.
Les droits des femmes ou juste le social ou l'économie. En fait, c'est un global.
Je prends un exemple. Je prends juste cet exemple-là pour dire cet exemple-là, je trouve, symbolise assez bien, mais on peut aller dans tout un tas d'autres domaines, symbolise assez bien ce qu'on peut reprocher à Emmanuel Macron. Voilà. Si je zoome sur cet exemple-là, donc je trouve les chiffres, je ne suis pas très surprise, moi, par ces chiffres, honnêtement.
Mais quand je disais les Français sont-ils trop durs, c'est surtout, est-ce qu'ils sont ingrats? Parce que c'est vrai qu'on a l'impression que, de toute façon, quoi qu'il fasse, Emmanuel Macron, pour le coup, les Français ne s'en souviennent pas. Par exemple, la taxe d'habitation, c'est vrai qu'il y a, voilà, il n'y a plus aucun Français, sauf ceux qui ont des résidences secondaires, qui ne payent plus la taxe d'habitation. C'était quand même plutôt un gros poste de dépenses pour les Français. Et ça, par exemple, personne ne le voit. On a l'impression que même quand
il fait ça, malheureusement.
Non, mais quand il fait quelque chose de bien, mais personne ne le voit. L'échec dont beaucoup de Français ont bénéficié, tout le monde s'en fout.
Bien sûr, en fait, ce que tu dis est juste et on peut même aller plus loin. Bon, je reviens juste sur le chiffre, le fameux calcul. On va dire que Macron retombe sur son socle électoral de premier tour avec 26% Oui, le fameux calcul 75-26, t'as comme t'as fait Thierry. Bon, c'est son socle du premier tour. Très bien. Après, j'en arrive à ce que t'étais en train de dire, Estelle. Effectivement, moi je veux bien l'usure du pouvoir. Je veux bien que sa tronche ne revient plus à personne. Ce qui a l'air d'être le cas quand on entend la plupart des gens, soit à travers les sondages, soit même éditorialistes politiques. Mais pardon, mais c'est 88% qui sont pas contents du volet économique et social, alors qu'il y a eu le quoi qu'il en coûte qui a distribué de l'argent dans tous les sens, l'échec dont tu as parlé distribué dans tous les sens, que la France est toujours le pays où il y a le plus d'aide. Bon, bah ok, ouais, il y a probablement matière à faire mieux. Je sais pas qui dans la classe politique pourrait faire beaucoup mieux que ça, mais je trouve quand même qu'effectivement il y a une vraie ingratitude. Alors je veux bien qu'il y ait un délit, je sais pas, j'ai l'impression qu'il a une sale gueule.
C'est la forme, c'est l'arrogance.
Voilà, c'est ce que j'ai dit.
C'est pas le problème.
Mais... c'est cet hyper président qui va tout s'exprimer sur absolument tout et n'importe quoi
Est-ce qu'en parallèle à ce sondage-là, à ces chiffres-là, on peut mettre celui des personnalités politiques des Français celles qui plaisent le plus? Comme par hasard, le point commun, donc il y a Édouard Philippe, il y a même le comeback de François Hollande.
Oui, c'est ceux qui sont plus aux affaires.
Il y a même Ségolène Royal. Oui. Il y a ça. En fait, le point commun, ce sont des gens qui n'exercent pas le pouvoir, ou qui l'ont exercé, ou quand ils l'ont exercé, ils étaient hyper impopulaires.
Ouais, mais c'est vrai.
Et là, maintenant, ils apparaissent en haut. Donc là, pardon, je vais rejoindre Thierry, mais ce genre de sondage, franchement, c'est presque indécent.
Prenez l'exemple d'un président omniprésent. On a reproché à Jacques Chirac, au moment des cohabitations, etc., de ne plus exister, si ce n'est un international.
Et il était populaire.
Ensuite, on a eu ça. Après. Oui. Alors ensuite, on a eu Sarkozy. Après, on a eu Sarkozy qui était le président omniprésent, tout le temps là, à la télé, tout le temps. On lui a reproché. On a eu Hollande ensuite, qui était jamais là.
Tous.
On le voyait jamais.
Stars, pareil.
Et aujourd'hui, on dit la même chose de
Macron.
Mais en fait,
la problématique, c'est peut-être les sondages. En réalité, ça vaut quoi ces sondages? On sait très bien qu'au final, ça ne vaut pas grand-chose.
Ah,
c'est une photo à un instant. C'est une photo d'humeur à un instant.
Je suis pas d'accord. Enfin, on connaît tous des gens, évidemment, qui sont macronistes, qui ont voté Emmanuel Macron, etc. Moi, ça fait quand même belle lurette que j'ai pas entendu quelqu'un défendre Emmanuel Macron, c'est à dire, il me plaît. Moi, son action me va, etc. Ce qu'il fait, c'est bien.
Oui. Donc les chiffres sont justes alors.
Ben oui, c'est pour ça. Non, mais tu dis, on doit remettre en cause les sondages.
Non, mais on sait bien que les sondages sont quand même. Enfin, oui, on a beaucoup, beaucoup parlé lors des dernières
présidentielles.
T'as beaucoup
de gens autour de toi qui te disent Macron est génial.
Non, c'est de plus en plus rare.
C'est de plus en plus rare. Alors que autour de toi, tu dois avoir en majorité des gens qui votent Emmanuel Macron.
Tu avais raison, c'est très culturel français.
Oui, mais tu vois, quand tu vois que le RN, par exemple, est aujourd'hui le parti numéro un des cadres, jamais t'aurais pu penser ça, mais même il y a 3 ans, et des retraités, mais c'est jamais t'aurais pu penser ça.
Mais c'est un effet d'optique, il a jamais exercé le pouvoir, donc on verra le jour où ils seront. On verra le jour où ils seront au pouvoir.
Personne ne peut lutter, effectivement, ils n'ont jamais été.
Donc c'est un effet d'optique.
Non, mais ils dirigent des communes quand même.
C'est pas du tout pareil.
Mais aussi,
je sais bien que ça n'a rien à voir. Mais quand ils n'avaient pas de communes, on leur rétorquait vous n'avez jamais exercé le pouvoir, vous n'avez même pas une commune. Oui. À partir du moment où ils ont eu des communes, on peut pas leur dire encore oui, mais vous n'avez jamais rien exercé. Même si je vais aller dans ton sens, ça n'est pas la même chose. Toujours est-il que petit à petit, c'est en grignotant comme ça des parcelles de pouvoir qu'ils sont aujourd'hui devenus prétendants. Au plus gros des pouvoirs. Donc, il ne faut pas non plus nier cet aspect-là. En revanche, tu as le droit de te poser la question de ce qu'ils feraient s'ils étaient à la place du gouvernement actuel et de jeter un coup d'œil à leur programme économique et social qui est franchement très variable. Un coup, chose. On a l'impression que les gens vont vers eux. Vont vers eux uniquement pour l'aspect ordre dans la société.
Pour l'aspect coup de pied dans la fourmilière aussi. Voilà. Sébastien est avec nous. Il nous a appelé au 3216 depuis Monistrol sur Loire. Il est conseiller en gestion du patrimoine. Bonjour Sébastien.
Bonjour Estelle, bonjour à tous.
Et merci d'être avec nous, Sébastien. Sébastien, est-ce que vous faites partie de ces 74% de Français mécontents de l'action d'Emmanuel Macron?
Alors mécontent, c'est pas tant mécontent. Après, moi j'aime bien analyser la situation dans son ensemble. Et aujourd'hui, en fait, il paye les frais de ce qu'il a semé, tout simplement. Il suffit de regarder, par exemple, les réactions qu'il a eues dernièrement face à son homologue russe, où l'Europe s'est levée devant lui et a dit « Oulala, mais on suivra pas Monsieur Macron ». À un moment donné, je pense qu'il y a des choses à voir sous une autre posture. L'Empire français, il a été dissous, Napoléon est mort depuis longtemps, il faut pas essayer de le remettre en place. À un moment donné, je pense qu'il faut prendre les tenants et les aboutissants des situations. Monsieur Macron, il a eu sa chance. Il a fait des choses bien, c'est évident. Aujourd'hui, par contre, je pense que ce que les gens ressentent, c'est qu'il n'y a pas de changement réel par rapport aux autres politiques qui ont été menées depuis 40 ans. Donc au bout d'un moment, comme ils se sentent trahis, Daniel Riolo l'a bien dit tout à l'heure, on est monté de l'extrême. Et pourquoi on a cette montée-là? Parce que depuis 40 ans, les gens qu'on a à l'électorat, ils ont l'impression d'être volés, mentis. Et aujourd'hui, il ne faut pas se surprendre.
Et ils veulent essayer quelque chose qu'ils n'ont jamais eu, s'est fait dans d'autres pays.
Mais en fait, quand on dit mécontent, moi je crois que ce n'est pas mécontent, je crois que c'est déçu. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais lors du premier quinquennat, les premières images d'Emmanuel Macron, je veux dire quand il marche devant la pyramide du Louvre, etc., il y a quand même une vraie fierté. Tu te dis, il a de la gueule, notre président.
Il devait renverser la table.
Tu parles de ça, les premiers jours.
C'était la même chose quand Sarko a été élu.
Au départ, tu vois Macron et tout ça, il y a une prestance. Tu es assez fier, tu te dis, c'est un jeune président. Il est en train de se passer quelque chose en France. T'es pour, t'es contre, mais en tout cas, tout le monde était plutôt. L'image est plutôt positive. Et donc, je pense qu'en fait, c'est à la hauteur de la déception aujourd'hui parce que finalement, personne n'est content. Les plus riches, ils disent, je parle pas des milliardaires, mais les plus riches, ils disent, on a trop d'impôts et pour quel résultat? Jamais les services publics n'ont été aussi délabrés. Les plus pauvres, ils disent, mais attendez, on peut même plus vivre de notre travail. Et en fait, on s'appauvrit. Les classes moyennes, c'est pire que tout. Donc en fait, personne n'est content. La politique du un peu du tout en même temps, elle n'a satisfait personne et c'est ça son problème.
Alors qu'il devait faire la synthèse entre des gens qui n'étaient pas d'accord, entre la droite et la gauche gouvernementale, qui étaient aux affaires depuis des années. Lui, il devait faire une synthèse entre ces deux camps.
Ouais, il n'a jamais réussi à trancher, c'est pour ça qu'aujourd'hui, il n'y a que des mécontents. Finalement, il n'a fait aucun
compte. Mais je ne suis pas sûr qu'il n'ait pas réussi à trancher, parce qu'il l'a fait, la synthèse. Hein. Sauf que les sources de mécontentement, elles sont sur différents dossiers. Si jamais on analysait là qu'est-ce qui nous déçoit dans l'action d'Emmanuel Macron. Il est possible que Emma a exprimé quelque chose de particulier, mais peut-être qu'on aura des points où on sera d'accord et des points sur lesquels on serait déçu. On pourrait faire le test entre nous, ne serait-ce que là. Je pense que tu valides pas à 100%, on valide pas tout ce qu'il y a fait à
100%. C'est impossible de valider à 100% de toutes les manières.
Et à la fin, ça dégage ce mécontentement généralisé.
Alors, notre invité sur ce débat, c'est Arnaud Benedetti, rédacteur en chef de la revue politique et parlementaire. Bonjour Arnaud.
Oui, bonjour Estelle, bonjour à tous.
Bonjour. Arnaud, première question, est-ce que vous êtes étonné de l'ampleur de ce mécontentement vis-à-vis d'Emmanuel Macron ?
Pas vraiment, parce que globalement, c'est un président qui certes a été réélu en 2022, mais qui a, depuis maintenant pratiquement 2018, c'est-à-dire depuis la crise des Gilets jaunes, un souci avec l'opinion publique. Alors en plus, se greffe là-dessus le fait que ça fait maintenant presque 7 ans, c'est-à-dire un septennat qu'il est au pouvoir, et donc comme tout président réélu, on a connu ça avec François Mitterrand, on a connu ça avec Jacques Chirac également par le passé, le général de Gaulle d'ailleurs l'avait connu lui aussi, il y a un phénomène qui est un phénomène naturel en politique, qui est le phénomène d'usure. Donc inévitablement, si vous voulez, se retrouver aujourd'hui avec une cote d'insatisfaction certes très importante, ce n'est pas pour le coup une véritable surprise pour qui analyse la vie politique un peu de près. Après, c'est vrai que la difficulté, c'est que si vous voulez, il y a au moins 3 enjeux sur lesquels aujourd'hui Emmanuel Macron est en difficulté. Un enjeu où il a toujours été en difficulté, c'est l'enjeu régalien, la question de l'ordre public, où là, manifestement, il y a un électorat, notamment à droite, mais pas seulement à droite, qui considère que malgré les efforts, j'allais dire, de communication de son ministre de l'Intérieur, le compte n'y est pas. Il y a un deuxième enjeu qui est l'enjeu international, où on a un président de la République qui a pris de très nombreuses initiatives maintenant depuis plusieurs années, et notamment depuis plusieurs mois avec la crise en Ukraine, mais qui donne l'impression parfois d'être un peu isolé sur la scène internationale. Et un troisième enjeu qui, à mon avis, est l'enjeu le plus embêtant pour lui, c'est l'enjeu, j'allais dire, de la gestion publique, de la gestion des finances publiques.
Ah bah oui.
Là, si vous voulez, c'est là qu'il risque de décrocher, c'est-à-dire que l'électorat de centre-gauche ou de centre-droit, celui des classes moyennes supérieures ou des classes CSP+, qui fait de la maîtrise de la dépense publique la mère de toutes les batailles, peut considérer que, en effet, Emmanuel Macron n'a pas rempli, si vous voulez, la mission qui était la sienne. Donc là, en effet, il y a une véritable difficulté. Ensuite, il a une équation personnelle. C'est un président qui a la communication qu'on lui connaît, c'est-à-dire une communication qui parfois peut être clivante. Et c'est vrai qu'à la limite, quand vous êtes, en deuxième partie de mandat, on n'y est pas tout à fait pour le second quinquennat, mais
bientôt.
On le dira bientôt.
On s'en approche.
La communication qui consiste à cliver est une communication qui ne facilite pas le lien avec l'opinion publique. Ceci dit, c'est un président qui a toujours su rebondir, un peu, vous savez, comme quelqu'un qui est sur un ruisseau et qui rebondit sur des roches, qui a su rebondir avec les crises. Finalement, on l'avait enterré avec la crise.
Mais c'est vrai qu'il en a eu beaucoup, ça.
On l'avait enterré avec la crise des Gilets jaunes, il a réussi à rebondir. On l'avait même enterré à un moment avec la crise sanitaire, il a réussi à rebondir. La crise internationale avec l'Ukraine lui a permis quand même, qu'on le veuille ou non, d'être réélu assez facilement lors de l'élection.
Ça lui a permis d'éviter les débats également.
Mais je crois qu'il y a un aspect qui est très important et que Emmanuel Macron n'a pas véritablement intégré, c'est que les Français ne lui ont pas donné les pleins pouvoirs en 2022, puisqu'ils lui ont fourni, si je puis dire, une Assemblée nationale qui est une Assemblée nationale,
exactement,
en effet, sans majorité, et c'est ce qui vient certainement aussi entraver son action.
Merci beaucoup Arnaud Benedetti pour toutes ces explications. On va terminer avec des messages. Ça tombe sur l'appli RMC, Rémi.
Ouais, ce message de Michel qui nous dit: salut l'équipe, je suis d'accord avec les résultats de ce sondage. Je faisais partie des soutiens d'Emmanuel Macron, mais quand je vois ce qu'il a fait pour les artisans indépendants, à part la non-saisie des biens immobiliers en cas de faillite, il n'a rien fait. Je suis toujours plus taxé. Le pouvoir d'achat de mes clients baisse, 0,7% de croissance. Moi, j'ai plutôt l'impression que c'est la récession. Et quand je regarde aux États-Unis et que je vois que le pouvoir d'achat des classes moyennes progresse, je me dis, pauvre France.
Ouais, mais alors, il progresse le pouvoir d'achat parce que
mais c'est moins redistributif aussi.
T'as des choses qui ont lieu aux États-Unis que personne ne supporterait en France.
Dans la façon de carte bleue pour aller à l'hôpital, par exemple.
Mais un tas de trucs de ce genre-là, quoi. Et ça, il faut que tout le monde en soit conscient.
Trois quarts des Français mécontents de l'action d'Emmanuel Macron. D'accord, pas d'accord. Ça donne quoi notre sondage, Rémi ?
Eh bien, chez nous, en tout cas sur nos réseaux sociaux, pour ceux qui se sont prononcés, ils sont 89% à être d'accord.